Salut, je m'appelle Joëlle et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, on va parler d'un des pans de la rémunération globale. On va parler plus précisément de tout ce qui touche les conditions de travail, particulièrement dans les petites et moyennes organisations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente mes co-animatrices pour aujourd'hui. Alors, bonjour Caroline.
Salut Joëlle.
Comment
salut,
ça va?
Filles. Oui, salut. Très contente d'être là aujourd'hui avec vous autres.
Et Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Contente de te retrouver.
Ben moi aussi. Un bon sujet aujourd'hui.
Ouais, ça va être très intéressant. Puis on profite justement de l'occasion qu'on a de lancer, de diffuser auprès de la population notre rapport sur les conditions de travail en PME qu'on fait depuis quelques années annuellement pour être capable de d'informer notre clientèle, les gens qui nous suivent aussi sur tout ce qui touche les avantages complémentaires. Donc, on a beaucoup d'informations, beaucoup de données disponibles pour être capable de travailler avec nos clients sur la rémunération directe, en fait, les salaires, pour être capable de bâtir les structures salariales et les politiques salariales dans les organisations de nos clients. Par contre, on s'est rendu compte que dans les dernières années, on n'avait pas beaucoup d'informations disponibles pour faire l'analyse complète de leur rémunération globale, est en mesure de comparer au marché l'ensemble de ce qu'ils offrent à leurs employés. Puis c'est un peu difficile de faire un bon travail d'analyse sans avoir toutes les informations, autant pour la rémunération directe et la rémunération indirecte. Donc, on a décidé qu'on allait à la source et qu'on allait chercher directement l'information pour compléter finalement l'information qu'on avait besoin pour faire un bon travail. Donc, on a travaillé fort.
Pour, c'est déjà la troisième édition sondage-là.
Exactement, troisième édition cette année, un taux de répondants hein, qui a augmenté de beaucoup pour notre dernière version qu'on a lancée en décembre, en fait, c'est tout récent, en décembre 2019, une augmentation de 200, plus de 200%, je pense, de participants, donc on est très contents. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre sondage. Donc, on va parler aujourd'hui un petit peu de ce qui est ressorti d'intéressant dans ce sondage-là, puis un peu, c'est quoi les tendances en termes de conditions de travail là dans la petite et moyenne organisation pour être capable d'outiller les gens qui nous écoutent à savoir sur mm-hmm. quoi je devrais me concentrer si je veux m'assurer d'attirer les candidats intéressants dans mon organisation, mais aussi retenir les employés, puis faire en sorte que l'enjeu de la rémunération soit pas une problématique de rétention dans mon organisation.
Juste avant de plonger, là, je veux juste un petit message d'ordre d'intérêt public. Dans le fond, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre podcast, allez directement sur la page. Le lien est dans la description de cet épisode. Vous pouvez vous abonner à travers votre plateforme de choix. Là, on est un peu partout, Spotify, Apple, tout ça. Puis, on a commencé à recevoir des messages, des gens, des encouragements, des 5 étoiles. Pour de vrai, ça nous fait comme tellement plaisir. Puis, si jamais vous avez un petit 2 minutes dans votre vie, n'hésitez pas à nous écrire, surtout aussi si vous avez des idées de sujets, ça nous aide beaucoup. On a plein d'idées, on a plein de choses à partager, mais des fois, c'est bien de savoir ce qui vous intéresse.
Oui, merci alors, beaucoup à ceux qui l'ont fait déjà.
Oui, tout à fait. Merci.
En fait, Joëlle, aussi, un élément, tu parlais d'enquête salariale. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette information-là. Des fois, ce qui est important de garder en tête, c'est que l'idée d'avoir l'info, c'est pas toujours de se coller nécessairement au marché, mais de savoir où on se positionne par rapport au marché. Donc, puis de faire des choix éclairés. Donc, je pense que c'est l'objectif. C'est pas une recette à suivre parce que si tout le monde est au marché, il y aura pas beaucoup d'éléments distinctifs là, pour les organisations. Mais quand on choisit d'être en deçà du marché ou être au-dessus du marché pour certains des éléments, on est capable de le mettre de l'avant ou de compenser avec d'autres aspects. Donc, je pense que l'objectif de ce sondage-là, c'est justement d'être capable de se comparer puis de voir où on se positionne sur les différents aspects.
Et d'ailleurs, ce que tu dis un peu, c'est de commencer à avoir des grandes lignes directrices puis faire des choix. Puis par rapport à ça, justement, ça fait partie des questions qu'on a posées aux gens, à savoir est-ce que ils ont une politique salariale, est-ce qu'ils réfléchissent à ça, tu sais, de façon un peu plus structurée, parce que tu sais souvent qu'on va accompagner des clients, c'est une des choses qu'on va tacler en premier. Puis une des choses qui a été surprenante, c'est qu'il y a seulement 62% des organisations qui ont pris le temps de faire cette démarche-là. Est-ce que ça vous a surpris comme statistique, vous?
Je pense que ça représente assez bien la clientèle qu'on a, hein, qui font appel à nous pour en élaborer une première. Il y en a beaucoup qui vont faire appel à nous pour réviser une politique salariale qu'ils ont déjà en place, mais qui a besoin d'être mise à jour. Donc, je pense que ça reflète assez bien là ce qu'on connaît comme marché là, au niveau de la petite moyenne organisation. Il y en a beaucoup qui en ont pas du tout. Je pense que c'est là qu'ils voient tout le bénéfice là, de pouvoir mettre une politique salariale en place. Ça aide énormément au niveau de la direction, de savoir quelles décisions prendre au quotidien, puis spécifiquement quand c'est le temps de faire les augmentations annuelles, les ajustements salariaux annuels, mais aussi de boucler la boucle hein, au niveau de la communication. Souvent, on fait des recherches. Il y a un travail qui est fait au niveau de la direction pour être capable d'avoir quand même une certaine structure au niveau de notre rémunération, mais on communique pas rien du tout par rapport à ça.
Il y a moins dans le sondage, c'est une des questions qu'on pose, puis il y a moins de la moitié des organisations qui prennent le temps de communiquer. Puis en tout cas, on pourra en parler longtemps, l'objectif, c'est pas ça, mais à partir du moment où tu communiques pas sur quelle base tu prends tes décisions au niveau des salaires, on peut voir tout de suite que les gens, ça peut être un enjeu, là, disons, de voir est-ce que c'est fait de façon éthique, c'est quoi qui est valorisé dans l'organisation.
Objectif.
Voilà.
Exactement.
Donc, parce que souvent, il y a beaucoup d'organisations, qui prennent des décisions en matière de rémunération. Donc, quelque part, ils ont des pratiques qui sont peut-être pas toujours constante d'une année à l'autre ou d'un gestionnaire à l'autre. Fait que souvent, ce que moi, je vais leur dire en leur vendant l'idée d'avoir une politique de salariale ou une politique de rémunération, c'est vraiment pour, oui, informer les employés, mais aussi pour les outiller eux parce que ça rend les décisions plus faciles, plus systématiques, plus constantes, parce que je pense qu'en matière de rémunération, si on veut valoriser l'équité, c'est un élément qui est important. Puis pour compléter, pour ceux d'entre vous qui sauraient peut-être un peu moins à quoi on fait référence quand on parle de politique salariale, un peu comme Joël le disait, généralement, on va venir un peu confirmer ou préciser notre marché de référence, notre positionnement et déterminer là, les lignes directrices là, dans tous les moments là, à l'embauche, au moment des, comme tu disais, des révisions annuelles, mais aussi s'il y a des promotions, des démotions, s'il y a des nouveaux postes qui sont créés ou ils sont révisés. Donc,
on gère la rémunération dans notre organisation,
c'est ça. Finalement. Au-delà d'avoir une structure salariale, comment on la maintient? Est-ce qu'on l'indexe annuellement? Si oui,
basé sur quoi?
Ça établit un certain guide. Puis pour les organisations, entre autres aussi les OBNL, je pense que c'est un cadre de gouvernance aussi qui est intéressant, qui donne la latitude au niveau là, de l'administration pour prendre des décisions en matière de rémunération.
Oui, puis c'est très rassurant pour les employés de savoir qu'il y a un travail qui a été fait, une réflexion qui a été faite, que le justement, comme tu disais tantôt, Sarah, que les décisions sont pas prises de façon arbitraire. Comment je me sens comme DG aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ce que tu vas avoir comme augmentation de salaire pour l'année prochaine. Donc, de connaître le cadre, de savoir comment ça a été réfléchi, établi, c'est quoi la démarche, puis comment on va s'y prendre pour le mettre en œuvre. C'est un peu, quand on en parle avec les clients, moi, ce que je leur dis, c'est un peu boucler la boucle et de la politique salariale, cette communication-là, c'est là qu'on va rentabiliser tout l'effort qu'on a mis à travailler sur notre structure salariale ou sur le contenu de notre rémunération. Si on fait pas ça, ben on retire pas tous les bénéfices du temps qu'on a investi et des coûts si on a fait affaire avec des gens de l'externe dans la démarche pour la rémunération.
Puis d'ailleurs, tu sais, c'est un des principaux défis là en matière de ressources humaines, au niveau de la rémunération globale, l'équité salariale, parce que oui, tu sais, il y a les salaires, mais aussi dans ce que tu dis de se donner des lignes directrices, tout ça, ça inclut un peu tout ce qui est un peu le mou là qu'on va dire généralement. Fait que tu sais, des choses que des fois on n'a pas de politique ferme. Fait que par exemple, tu sais, un des enjeux, une des choses qu'on a vu qui émerge de plus en plus, c'est la flexibilité au travail. Fait qu'on en parle beaucoup. Fait que tu sais, est-ce que il y a une politique dans l'entreprise? Est-ce que c'est balisé? Est-ce que ça dépend de comment les gestionnaires se sentent? Fait que, tout ce genre de choses-là, ça vaut la peine d'y réfléchir. Puis j'ai été un peu surprise de voir que la majorité des organisations offrent des horaires flexibles.
84%, hein?
C'est ça. T'sais, c'est la, en fait, la mais vaste majorité.
Mais c'est pas par écrit, puis c'est pas balisé. Puis ouais. Là où on sent qu'il y a des enjeux, je pense que c'est ce que tu allais dire, c'est que souvent, ça crée des problématiques parce que on n'a pas établi les règles du jeu. C'est pas clair pour les employés, mm-hmm. ce qui est permis. C'est pas clair nécessairement pour la direction, comment je le gère. Donc, ouais. d'en offrir, c'est super important parce que c'est prisé aujourd'hui. Je pense que la majorité des employés souhaitent avoir une certaine forme de flexibilité dans le cadre de leur travail, ne serait-ce que sur l'horaire, mais de plus en plus, on voit de la flexibilité au niveau des conditions de travail aussi. Mm-hmm. On le met beaucoup en place là, chez nos clients de plus en plus, là, de pouvoir adapter l'offre de rémunération globale à la situation personnelle de chacun des employés dans une certaine forme, dans la mesure du possible, évidemment. Donc, moi, je trouve ça important de l'offrir, mais je trouve ça important de le baliser, de le mettre par écrit dans une politique claire.
Dans le sondage, on voyait qu'il y avait 92% des organisations qui offraient des programmes d'assurance collective, 63% qui contribuaient à un régime d'épargne retraite. Donc ça, c'est sûr que c'est mm-hmm. des avantages qu'on voit dans les organisations depuis longtemps.
Puis il y a une hausse par rapport au sondage de l'an passé, au niveau entre autres de la retraite, là, c'était plutôt comme autour de 45% en 2018 dans le dernier sondage. Fait que probablement que ça fait partie un peu des stratégies qu'on peut se donner pour attirer, retenir le talent. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est des fois, on pense que c'est des vieux avantages plates, mais finalement, il y a une réelle...
Bien, on le voit quand on fait des sondages aux entreprises, aux employés dans les entreprises et les organisations qu'on accompagne, c'est presque tout le temps le numéro un, mm-hmm. les assurances collectives quand il n'y en a pas mm-hmm. et les régimes de retraite qui sont les avantages que les employés souhaitent avoir ou qu'ils souhaitent conserver quand il mm-hmm. y en a déjà.
C'est un bon point, mais en même temps, ça m'a amené à me dire justement, je pense que c'est important si on amorce une réflexion au niveau de la rémunération globale puis des autres avantages qu'on a envie d'offrir, d'aller sonder justement nos employés parce que parfois, on y va avec des solutions auxquelles on pense, mais qui répondent peut-être pas toujours aux besoins de nos employés. Puis selon la démographie, le statut, le moment où ils en sont dans leur cheminement personnel, il peut avoir des avantages qui sont beaucoup plus importants ou intéressants pour certains employés que d'autres. Et même dans le cas où on irait avec des assurances collectives, parce que je pense qu'il y a une certaine sécurité qui est importante, qui est intéressante, je pense qu'à l'intérieur de ces programmes-là, il y a aussi là, beaucoup de réflexions à y avoir parce que... dépendamment de notre population puis des besoins de nos employés, ça peut finir par être un cadeau parfois pas empoisonné, mais quand même un cadeau qui est coûteux parce qu'il y a un coût pour l'organisation, mais il y a aussi un coût pour l'employé.
Soit en termes d'avantages imposables ou de primes. Fait que ça, c'est des choses à réfléchir d'une perspective de rémunération globale puis en fonction de la démographie de l'organisation aussi, là, t'as raison que...
C'est ça, il y a beaucoup de plus en plus d'entreprises qui se détournent, par exemple, de tout ce qui est le volet dentaire ou qui vont réduire un petit peu les protections mm-hmm. puis peut-être le transformer en, par exemple, en compte de gestion santé mm-hmm. où là, justement, on va chercher cette flexibilité-là où les employés peuvent l'utiliser un peu à...
Oui, puis il y a des bons et des mauvais côtés. C'est-à-dire qu'un compte de gestion santé, c'est super bien pour des dépenses médicales, dentaires, spontanées. En même temps, c'est pas une réelle protection pour l'employé. T'sais, des fois, dépendamment de l'organisation, à choisir, des fois, il y a de l'assurance vie qui peut peut-être être intéressant, l'assurance mm-hmm. salaire, tu sais, dans le fond, ce qu'on va appeler la vraie assurance, entre guillemets. Mm-hmm. Là. Fait que tu sais, je pense que le message, c'est de se dire qu'il y a plein d'affaires qui existent, il y a plein de nouvelles tendances, il y a de la télémédecine aussi aujourd'hui, mm-hmm. des applications mobiles, on peut skyper avec des docteurs, chatter avec des infirmières, fait que je pense que c'est de se dire, ben oui, ok, on va se comparer au marché, puis là ça prend des données, puis c'est un peu l'objectif de notre sondage, mais il y a aussi une réflexion plus globale à avoir, puis comme à ton point, il faut aussi impliquer les employés, puis ça vaut la peine, oui, de leur demander ce qu'ils veulent, mais en gardant en tête, des fois, tu sais, quand on est en santé, puis tout ça, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement ce qu'on a le plus besoin. Là. Fait que tu sais, c'est à quel point on veut être paternaliste là-dedans, je pense que ça dépend... aussi des organisations.
Tout à fait. Puis ce que j'ai trouvé très, très intéressant aussi par rapport à notre dernière édition pour le sondage, c'est qu'il y a beaucoup d'OBNL aussi qui ont répondu à l'appel. On a donc une belle variété en termes d'organisation du privé, donc des PME, mais aussi des organismes à but non lucratif, des organisations en économie sociale et du public parapublic. Donc, on est en mesure de pouvoir faire des comparables par secteur, puis je trouve ça super important de le mentionner parce que tantôt quand on parlait de la rémunération globale, puis de pas seulement analyser de façon séparée la rémunération directe et la rémunération indirecte, on le voit tout à fait quand on fait des accompagnements d'organismes à but non lucratif. Typiquement, dans certains secteurs au BNL, on va avoir choisi d'avoir une politique salariale qui nous amène à la remorque du marché pour tout ce qui est la rémunération directe, hein, pour des questions de capacité de payer des organismes. Et souvent, on va aller compenser avec des vacances, par exemple, des congés supplémentaires. Donc, tout ce qui touche les avantages complémentaires, la rémunération indirecte, vient balancer le fait qu'on n'a pas nécessairement l'opportunité de donner les mêmes salaires que dans le marché du privé ou le marché général, par exemple. Donc, d'avoir cette perspective-là globale, quand on fait l'analyse, c'est important, mais d'être capable de comparer aussi ce qui est offert en OBNL quand on fait les analyses pour les OBNL versus quand on est dans le privé. Donc, c'est, je pense, super important. Puis, on a des belles données, là, étant donné la diversité des répondants qu'on a eu dans
c'est
le sondage.
C'est ça, il y a les données au niveau, tu sais, sans trop s'étendre sur le sujet, mais on est capable d'aller regarder, tu sais, au niveau des vacances, des congés spéciaux, congés pour deuil, tu sais, un peu... toutes les sortes là, de vacances ou toutes les...
Le temps supplémentaire, oui, donc voilà. Les allocations, les primes, on a couvert pas mal tous les éléments,
les
je pense.
De formation,
là. Ouais, c'est vaste, ça. Donc, sujet. Toutes sortes de volets. Ça m'amène à me dire, tu sais, je pense que pour les organisations, ce qui peut être aussi, on parlait tout à l'heure de communication, de transparence, je pense que tous ces avantages-là sont extrêmement intéressants et pertinents. Importants peuvent être très distinctifs aussi pour les organisations face aux employés. Puis je pense que c'est intéressant aussi de les quantifier, d'être en mesure de mesurer d'être capable de présenter aux employés ce que ça représente en termes de rémunération puis de dollars, si on veut, soit à travers un relevé de rémunération ou autre, parce que parfois, il y a certaines organisations qui, au départ, ont l'impression qu'il faut qu'ils augmentent leur niveau de rémunération, mais quand on additionne tous les autres avantages qu'ils offrent, on se rend compte que finalement, ils ont...
L'enveloppe
est extrêmement intéressante, c'est juste que parfois, elle n'est pas nécessairement communiquée ou...
Oui, puis ça aide beaucoup pour faciliter le travail, si on veut, des employés quand ils doivent comparer des pommes avec des pommes, quand ils ont plusieurs offres d'emploi en tant que candidat, ils ont des choix à faire ou quand ils se font offrir des opportunités ailleurs, quand ils sont déjà en emploi, d'avoir ce relevé de rémunération globale-là sous la main, ça nous permet de pas oublier qu'on a ces avantages-là puis que finalement, notre rémunération globale est plus intéressante des fois que ce qu'on a directement sur notre talon de paye. Donc, cette perspective-là globale peut servir énormément à la rétention et à l'attraction auprès des organisations qui ont peut-être une rémunération directe un peu moins élevée. Là.
Définitivement.
Si on, mettons qu'on veut lire ce merveilleux sondage, Joël, qu'est-ce qu'on fait?
En fait, on peut aller sur notre site web, on va avoir une section qui est dédiée justement à notre rapport de notre dernière édition du rapport. Pour ceux qui n'ont pas répondu au rapport, parce que c'est un rapport qu'on remet gratuitement à tous les répondants. Ceux qui voudraient se le procurer, il y aura une option justement pour pouvoir se le procurer directement sur la page avec des coûts qui sont adaptés aussi au type d'organisation. Donc, on a un coût spécifique pour les OBNL qui est plus avantageux. Donc, allez visiter notre page web, là, vous allez avoir toutes les informations ou n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations.
Participer l'an prochain, ben, peut-être juste nous envoyer un petit courriel, faites-nous un coucou, on va vous rajouter dans la liste d'envoi, ça va nous faire plaisir. Puis comme ça, ben la prochaine édition sera gratuite pour vous.
ou abonnez-vous à notre infolettre. On risque de vous envoyer de l'information à la fin de l'été, l'année prochaine, là, pour compléter le sondage.
Absolument. Et ceux qui souhaiteraient avoir des données vraiment spécifiques pour leur secteur d'activité, avec leur statut organisationnel et avoir une analyse plus complète là, en fonction de qui ils sont, ben appelez-nous. On est en mesure de vous aider aussi avec ça. Donc, merci les filles pour cette belle discussion. Sarah, si on veut conclure avec où est-ce qu'on peut nous trouver pour entendre nos autres épisodes?
Voilà, ben en fait, la façon la plus facile, je pense, c'est de s'abonner carrément comme ça. À chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, vous allez l'avoir dans votre téléphone. Donc, sur votre plateforme de balado, il y a Spotify aussi qui est très facile, très bien fait. Ou si vous avez mieux nous écouter à l'ordinateur, ben soit dans la section blog, sur le site de Via Conseil, on est accessible.
Merci les filles.
Bye.
À la prochaine.
Bonne journée.